Chapitre 8. La mansarde de Monsieur Jacques. Ce qu'était Monsieur Jacques. L'escalier, déjà étroit et difficile au bout de l'allée, à la place où Gilbert avait heurté la première marche, devenait de plus en plus difficile et de plus en plus étroit à partir du troisième étage qu'habitait Jacques. Celui-ci et son protégé arrivèrent donc péniblement à un vrai grenier. Cette fois, c'était Thérèse qui avait eu raison. C'était bien un vrai grenier, coupé entre quatre compartiments, dont trois étaient inhabités. Il est vrai de dire que tous, même celui destiné à Gilbert, étaient inhabitables. Le toit s'abaissait si rapidement à partir du comble qu'il formait avec le plancher un angle aigu. Au milieu de cette pente, une lucarne fermée d'un mauvais châssis sans vitre donnait le jour et l'air, le jour chichement, l'air à profusion, surtout par les vents d'hiver. Heureusement que l'on touchait à l'été, et cependant, malgré le doux voisinage de la chaude saison, la chandelle que tenait Jacques faillit s'éteindre lorsqu'ils pénétrèrent dans le grenier. La paillasse dont avait fastueusement parlé Jacques gisait en effet à terre et s'offrait tout d'abord au regard comme le meuble principal de la chambre. Çà et là, des piles de vieux journaux imprimés, jaunis sur les tranches, s'élevaient au milieu d'un amas de livres rongés par les rats. À deux cordes placées transversalement et à la première desquelles faillit s'étrangler Gilbert, crépitaient, en dansant au vent de la nuit, des sacs de papier renfermant des haricots séchés dans leur gousse, des herbes aromatiques et des linges de ménage mêlés à de vieilles hardes de femmes. « Ce n'est pas beau, dit Jacques, mais le sommeil et l'obscurité rendent égaux aux plus somptueux palais les plus pauvres chaumières. Dormez comme on dort à votre âge, mon jeune ami. » Et rien ne vous empêchera de croire demain matin que vous avez dormi dans le Louvre, mais surtout, prenez bien garde au feu. Oui, monsieur, dit Gilbert, un peu étourdi de tout ce qu'il venait de voir et d'entendre. Jacques sortit en lui souriant, puis il revint. Demain, nous causerons, dit-il. Je pense que vous ne répugnerez point à travailler, n'est-ce pas? « Vous savez, monsieur, répondit Gilbert, que travailler au contraire est tout mon désir. Voilà qui est bien. » Et Jacques fit de nouveau un pas vers la porte. « Travail digne, bien entendu, répondit le pointilleux Gilbert. « Je n'en connais pas d'autre, mon jeune ami. Ainsi donc, à demain. Bonsoir et merci, monsieur, dit Gilbert. » Jacques sortit, ferma la porte en dehors et Gilbert resta seul dans son galetas. D'abord émerveillé, puis pétrifié d'être à Paris, il se demanda si c'était bien Paris, cette ville où l'on voyait des chambres pareilles à la sienne. Puis il réfléchit qu'au bout du compte, M. Jacques lui faisait l'aumône, comme il l'avait vu faire à Tavernet. Non seulement il ne s'étonna plus, mais l'étonnement commença à faire place à la reconnaissance. Sa chandelle à la main, il parcourut, en prenant les précautions demandées par Jacques, tous les coins du galetas, s'occupant peu des habits de Thérèse, dont il ne voulut même pas distraire une vieille robe pour se faire une couverture. Il s'arrêta aux piles de papier imprimé qui éveillaient au dernier point sa curiosité. Elles étaient ficelées, il n'y toucha point. Le cou tendu, l'œil à vide, il passa des liasses ficelées au sac de haricots. Les sacs de haricots étaient faits d'un papier fort blanc, toujours imprimé, joint avec des épingles. Dans un mouvement un peu brusque qu'il fit, Gilbert toucha la corde avec sa tête, un des sacs tomba. Plus pâle, plus effaré que s'il eût forcé la serrure d'un coffre-fort, le jeune homme se hâta de ramasser les haricots épars sur le plancher et de les remettre dans le sac. En se livrant à cette opération, il regarda machinalement le papier, machinalement encore ses yeux lurent quelques mots, ces mots attirèrent son attention. Il repoussa les haricots et, s'asseyant sur sa paillasse, il lut, car ces mots étaient si parfaitement en harmonie avec sa pensée et surtout avec son caractère qu'ils semblaient écrits non seulement pour lui, mais encore par lui. Les voici. D'ailleurs, des couturières, des filles de chambre, de petites marchandes ne me tentaient guère. Il me fallait des demoiselles. Chacun a sa fantaisie, ça a toujours été la mienne. Je ne pense pas comme Horace sur ce point-là. Ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état et du rang qui m'attire. C'est un teint mieux conservé, de plus belles mains, une parure plus gracieuse, un air de délicatesse et de propreté sur toute la personne, plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer, une robe plus fine et mieux faite, une chaussure plus mignonne, des rubans, de la dentelle, des cheveux mieux ajustés. Je préférerais toujours la moins jolie ayant tout cela. Je trouve moi-même cette préférence fort ridicule, mais mon cœur la donne malgré moi. Gilbert tressaillit et la sueur lui monta au front. Il était impossible de mieux exprimer sa pensée, de mieux définir ses instincts, de mieux analyser son goût. Seulement André n'était pas la moins jolie ayant tout cela. André avait tout cela et c'était la plus belle. Gilbert continua donc avidement. À la suite des lignes que nous avons citées, venait une charmante aventure d'un jeune homme avec deux jeunes filles, l'histoire d'une cavalcade accompagnée de ces petits cris charmants qui rendent les femmes plus charmantes encore parce qu'ils trahissent leur faiblesse, d'un voyage en croupe derrière l'une d'elles ou d'un retour nocturne plus charmant et plus délicieux encore. L'intérêt allait gagnant. Gilbert avait déplié le sac et avait lu tout ce qu'il y avait d'imprimé sur le sac avec un certain battement de cœur. Il interrogea la pagination et se mit à chercher si les autres pages n'y faisaient pas suite. La pagination était interrompue, mais il retrouva 7 ou 8 sacs qui paraissaient se suivre. Il en ôta les épingles, vida les haricots sur le plancher, les assembla et lut. Cette fois, c'était bien autre chose encore. Ces nouvelles pages contenaient les amours d'un jeune homme pauvre, inconnu, avec une grande dame. La grande dame était descendue jusqu'à lui, ou plutôt, il était monté jusqu'à elle, et la grande dame l'avait accueilli comme s'il eût été son égal, et elle en avait fait son amant, l'initiant à tous les mystères du cœur, rêve de l'adolescence, qui sont une si courte réalité, qu'arrivés de l'autre côté de la vie, ils ne nous paraissent plus que comme un de ces météores brillants mais fugitifs qui glissent au milieu d'un soleil étoilé de printemps. Le jeune homme n'était nommé nulle part. La grande dame s'appelait Madame de Varens, nom doux et charmant à prononcer. Gilbert rêvait au bonheur de passer ainsi toute une nuit à lire, et le plaisir s'augmentait de cette sécurité qu'il avait une longue file de sacs à dépouiller les uns après les autres, quand tout à coup un léger pétillement se fit entendre. La chandelle, échauffée par le récipient de cuivre, s'enfonça dans la graisse liquide, une vapeur infecte monta dans le grenier, la mèche s'éteignit, et Gilbert se trouva dans l'obscurité. Cet événement était arrivé si rapide qu'il n'y avait pas eu moyen d'y porter remède. Gilbert, interrompu au milieu de sa lecture, était prêt d'en pleurer de rage. Il laissa glisser la liasse de papier sur les haricots amassés près de son lit et se coucha sur sa paillasse où, malgré son dépit, il s'endormit bientôt profondément. Le jeune homme dormit comme on dort à 18 ans. Aussi ne se réveilla-t-il qu'au bruit du cadenas criard que Jacques avait placé la veille à la porte du grenier. Le jour était grand. Gilbert, en ouvrant les yeux, vit son hôte entrer doucement dans sa chambre. Ses yeux se portèrent aussitôt sur les haricots épars et sur les sacs redevenus feuillets. Les yeux de Jacques avaient pris la même direction. Gilbert sentit le rouge de la honte lui monter aux joues. Et sans trop savoir ce qu'il disait, bonjour, monsieur, murmura-t-il. Bonjour, mon ami, dit Jacques, avez-vous bien dormi? Oui, monsieur. Seriez-vous somnambule par hasard? Gilbert ignorait ce qu'était un somnambule, mais il comprit que la question avait pour but de lui demander une explication sur ces haricots hors de leur sac et sur ces sacs veufs de leurs haricots. Hélas, monsieur, dit-il, je vois bien pourquoi vous me dites cela. Oui, c'est moi qui suis coupable du méfait, et je m'accuse humblement, mais je le crois réparable. Sans doute, mais pourquoi donc votre chandelle est-elle usée jusqu'au bout? J'ai veillé trop tard. Et pourquoi avez-vous veillé? Fit Jacques, soupçonneux. pour lire. Le regard de Jacques parcourut, plus défiant encore, le grenier encombré. Cette première feuille, dit Gilbert, en montrant le premier sac qu'il avait décroché et lu, cette première feuille sur laquelle j'ai jeté les yeux par hasard m'a tellement intéressé. Mais vous, monsieur, qui savez tant de choses, vous devez savoir de quel livre elle vient. Jacques y jeta négligemment les yeux et dit, je ne sais. C'est un roman, sans doute, fit Gilbert, un bien beau roman. Un roman, croyez-vous? Je le crois, car on y parle d'amour comme dans les romans, excepté qu'on en parle mieux. Cependant, reprit Jacques, comme je lis au bas de cette page le mot confession, je croyais, vous croyez, que ce pouvait être une histoire. Oh non, non, l'homme qui parle ainsi ne parle pas de lui-même, il a trop de franchise dans ses aveux, trop d'impartialité dans son jugement. Et moi, je crois que vous vous trompez, dit vivement le vieillard. L'auteur, au contraire, a voulu donner cet exemple au monde d'un homme se montrant à ses semblables tel que Dieu a fait l'homme. Connaissez-vous donc l'auteur? L'auteur est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau! S'écria vivement le jeune homme. Oui, il y a ici quelques feuilles de son dernier livre, détachées, égarées. Ainsi, ce jeune homme pauvre, inconnu, obscur, mendiant presque par les grands chemins qu'il parcourait à pied, c'était Rousseau, c'est-à-dire l'homme qui devait un jour faire l'Émile et écrire le contrat social. C'était lui, ou plutôt non, dit le vieillard avec une expression de mélancolie difficile à rendre. Non, ce n'était pas lui. L'auteur du contrat social et de l'Émile est l'homme désenchanté du monde, de la vie, de la gloire, et presque de Dieu. L'autre Rousseau, celui de Madame de Varens, c'est l'enfant entrant dans la vie par la même porte que l'aurore entre dans le monde. C'est l'enfant avec ses joies, ses espérances. Il y a entre les deux Rousseau un abîme qui les empêchera de jamais se joindre, 30 ans de malheur. Le vieillard secoua la tête, laissa tomber tristement ses bras et parut se perdre dans une rêverie profonde. Gilbert était demeuré comme ébloui. Ainsi donc, dit-il, cette aventure avec Mademoiselle Galley et Mademoiselle de Graffenried est donc vraie, cet amour ardent pour Madame de Varens. Il l'a donc éprouvé, cette possession de la femme qu'il aimait, possession qui l'attristait au lieu de le transporter au ciel comme il s'y attendait, ce n'est donc pas un ravissant mensonge. Jeune homme, dit le vieillard, Rousseau n'a jamais menti. Rappelez-vous sa devise, Vitam in pendere vero. Je la connaissais, dit Gilbert, mais comme je ne sais pas le latin, je n'ai jamais pu la comprendre. Cela veut dire donner sa vie pour la vérité. Ainsi, continua Gilbert, cette chose est possible qu'un homme parti d'où est parti Rousseau soit aimé d'une belle dame, d'une grande dame. Oh mon Dieu, savez-vous que c'est à rendre fou d'espoir ceux qui, partis d'en bas comme lui, ont jeté les yeux au-dessus d'eux? Vous aimez, dit Jacques, et vous voyez une analogie entre votre situation et celle de Rousseau? Gilbert rougit, seulement il ne répondit point à la question. Mais toutes les femmes ne sont point comme Madame de Varens, dit-il. Il y en a de fières, de dédaigneuses, d'inaccessibles, et celles-là, c'est une folie de les aimer. Cependant, jeune homme, dit le vieillard, de pareilles occasions ont été plus d'une fois offertes à Rousseau. Oui, s'écria Gilbert, mais il était Rousseau, bien certainement, si je sentais en moi une étincelle du feu qui a brûlé son cœur en échauffant son génie. Eh bien, je me dirais qu'il n'y a pas de femme, si grande dame qu'elle soit par la naissance, qui puisse compter avec moi, tandis que, n'étant rien, n'ayant point la conviction de mon avenir, quand je regarde au-dessus de moi, je suis ébloui. Oh, je voudrais pouvoir parler à Rousseau. Pourquoi faire? Pour lui demander si, Madame de Varens n'étant pas descendue à lui, il n'eut pas monté à elle pour lui dire, cette possession qui vous a attristé, si elle vous eût été refusée, ne l'eussiez-vous pas conquise même? Le jeune homme s'arrêta. Même, répéta le vieillard, même par un crime. Jacques tressaillit. Ma femme doit être réveillée, dit-il, coupant court à l'entretien. Nous allons descendre. D'ailleurs, la journée d'un travailleur ne commence jamais assez tôt. Venez, jeune homme, venez. C'est vrai, dit Gilbert. Pardon, monsieur, mais il y a certaines conversations qui m'enivrent, certains livres qui m'exaltent, certaines pensées qui me rendent presque fou. Allons, allons, vous êtes amoureux, dit le vieillard. Gilbert ne répondit rien et se mit à ramasser les haricots et à reformer les sacs à l'aide des épingles. Jacques le laissa faire. « Vous n'avez pas été somptueusement logé, lui dit-il, mais au bout du compte, vous aviez ici le nécessaire, et si vous eussiez été plus matinal, il vous fût arrivé par ces fenêtres des émanations de verdure qui ont bien leur mérite au milieu des odeurs nauséabondes qui infectent la grande ville. » Il y a là les jardins de la rue de la Jussienne, les tilleuls et les faux ébéniers y sont en fleurs, et les respirer le matin, n'est-ce pas, pour un pauvre captif, c'est amasser du bonheur pour toute une journée. J'aime tout cela vaguement, dit Gilbert, mais j'y suis trop accoutumé pour y faire grande attention. Dites qu'il n'y a pas assez longtemps que vous avez perdu la campagne pour la regretter encore, mais vous avez fini, allons travailler. Et montrant le chemin à Gilbert, Jacques le fit sortir et ferma le cadenas derrière lui. Cette fois, Jacques conduisit son compagnon droit à la pièce que Thérèse la veille avait désignée sous le nom de « son cabinet ». Des papillons sous verre, des herbes et des minéraux encadrés dans des bordures de bois noir, des livres dans une bibliothèque de noyer, une table étroite et longue, couverte d'un petit tapis de laine verte et noire, usé par le frottement, et sur laquelle des manuscrits étaient rangés en bon ordre, quatre chaises fauteuils de merisier, foncés et couverts de crin noir, tel était l'ameublement du cabinet. Le tout luisant, ciré, irréprochable, d'ordre et de propreté, mais froid à l'œil et au cœur, tant le jour tamisé par les rideaux de siamoise était gris et faible, tant le luxe et même le bien-être semblaient éloignés de cette cendre froide et de ce foyer noir. Un petit clavecin de bois de rose porté par quatre pieds droits et sur la cheminée un maigre cartel signé « Dolt à l'arsenal » rappelait seul, l'un par la vibration de ses fils d'acier éveillés par le passage des voitures dans la rue, l'autre par son balancier argentin, que quelque chose vivait dans cette espèce de tombeau. Gilbert entra respectueusement dans le cabinet que nous venons de décrire. Il trouvait le mobilier presque somptueux, car c'était à peu près celui du château de Tavernet. Le carreau ciré, surtout, lui imposait fort. « Asseyez-vous, lui dit Jacques en lui montrant une seconde petite table placée dans l'embrasure d'une fenêtre. « Je vais vous dire quelle est l'occupation que je vous ai destinée. » Gilbert s'empressa d'obéir. « Connaissez-vous ceci ? » demanda le vieillard, et il montrait à Gilbert un papier rayé à intervalles égaux. « Sans doute, répondit celui-ci, c'est du papier à musique. « Eh bien, lorsqu'une de ces feuilles a été noircie convenablement par moi, c'est-à-dire quand j'ai copié dessus autant de musique qu'elle en peut contenir, j'ai gagné 10 sous. C'est le prix que j'ai fixé moi-même. » « Croyez-vous que vous pourrez apprendre à copier la musique ?»« Oui, monsieur, je le crois. Mais est-ce que ce petit barbouillage de points noirs embroché de raies uniques, doubles ou triples, ne vous tourbillonne pas devant les yeux ?»« C'est vrai, monsieur, au premier coup d'œil, je n'y comprends pas grand-chose. Cependant, en m'appliquant, je distinguerai les notes les unes des autres. Par exemple, voici un fa. Ou cela ?» Ici, embroché dans la ligne la plus élevée, et cette autre ligne entre les deux lignes basses, c'est encore un fa. La ligne au-dessus de celle qui est à cheval sur la deuxième ligne, c'est un sol. Mais vous savez lire la musique alors, c'est-à-dire que je connais le nom des notes, mais je n'en connais point la valeur. Et savez-vous quand elles sont blanches, noires, croches, double croches et triple croches? Oh oui, je sais cela. Et ces signes, ceci c'est un soupir, et ceci un dièse, et ceci un bémol. Ah, très bien, Ah ça, mais avec votre ignorance, fit Jacques, dont l'œil commençait à se voiler de cette défiance qui lui paraissait habituelle, avec votre ignorance, voilà que vous parlez musique comme vous parliez botanique et que vous avez failli me parler amour. Oh monsieur, dit Gilbert rougissant, ne vous raillez pas de moi. Au contraire, mon enfant, vous m'étonnez. La musique est un art qui ne vient qu'après les autres études, et vous m'avez dit n'avoir reçu aucune éducation, vous m'avez dit n'avoir rien appris. C'est la vérité, monsieur. Mais ce n'est cependant pas vous qui avez imaginé tout seul que ce point noir sur la dernière ligne était un fa. Monsieur, dit Gilbert, baissant la tête et la voix, dans la maison que j'habitais, il y avait une jeune personne qui jouait du clavecin. Ah oui, celle qui faisait de la botanique, fit Jacques. Justement, monsieur, elle en jouait même fort bien. Vraiment? Oui, et moi, j'adore la musique. Et tout ceci n'est point une raison de connaître les notes. Monsieur, il y a dans Rousseau qu'incomplet est l'homme qui jouit de l'effet sans remonter à la cause. Oui, mais il y a aussi, dit Jacques, que l'homme, en se complétant par cette recherche, perd sa joie, sa naïveté et son instinct. Qu'importe, dit Gilbert, s'il trouve dans l'étude des jouissances égales à celles qu'il peut perdre. Jacques, surpris, se retourna. Allons, dit-il, vous êtes non seulement botaniste et musicien, mais vous êtes encore logicien. Hélas, monsieur, je ne suis malheureusement ni botaniste, ni musicien, ni logicien. Je ne sais distinguer une note d'une autre note, un signe d'un autre signe. Voilà tout. Vous solfiez alors? Moi, pas le moins du monde. Eh bien, n'importe. Voulez-vous essayer de copier? Voici du papier tout réglé, mais prenez garde de le gaspiller. Il coûte fort cher. Et même, faites mieux, prenez du papier blanc, rayez-le et essayez sur celui-là. Oui, monsieur, je ferai comme vous me recommandez de faire, mais permettez-moi de vous le dire, ce n'était point là un état pour toute ma vie, car pour écrire de la musique que je ne comprends pas, mieux vaut me faire écrivain public. Jeune homme, vous parlez sans réfléchir, prenez garde. Moi? Oui, vous. Est-ce la nuit que l'écrivain public exerce son métier et gagne sa vie? Non, certes. Eh bien, écoutez ce que je vais vous dire. Un homme habile peut, en 2 ou 3 heures de nuit, copier 5 de ses pages, et même 6. Lorsqu'à force d'exercice, il a acquis une note grasse et facile, un trait pur et une habitude de lecture qui lui économise les rapports de l'œil au modèle, 6 pages valent 3 francs. Un homme vit avec cela. Vous ne direz pas le contraire, vous qui ne demandez que 6 sous. Donc, avec 2 heures de travail de nuit, un homme peut suivre les cours de l'école de chirurgie, de l'école de médecine et de l'école de botanique. Ah, s'écria Gilbert, ah, je vous comprends, monsieur, et je vous remercie du plus profond du cœur. Et il se jeta sur la feuille de papier blanc que lui présentait le vieillard. Gilbert travaillait avec ardeur et son papier se couvrait d'essais consciencieusement étudiés. Lorsque le vieillard, après l'avoir regardé faire pendant quelque temps, se mit à son tour à l'autre table et commença à corriger des feuilles imprimées, pareil à l'enveloppe des haricots du grenier. 3 heures s'écoulèrent ainsi et le cartel venait de sonner 9 heures lorsque Thérèse entra précipitamment. Jacques leva la tête. Vite, vite, dit la ménagère, passez dans la salle, voici un prince qui nous arrive. Mon Dieu, quand donc cette procession d'altesse finira-t-elle, pourvu qu'il ne lui prenne pas la fantaisie de déjeuner avec nous, comme a fait l'autre jour le duc de Chartres. Quel est ce prince? Demanda Jacques à voix basse. Monseigneur, le prince de Conti. Gilbert, à ce nom, laissa tomber sur ses portées un sol que Bridoison, s'il fût né à cette époque, eût appelé un pâté, bien plus qu'une note. Un prince, une altesse, fit-il tout bas. Jacques sortit en souriant derrière Thérèse, qui referma la porte. Alors Gilbert regarda autour de lui et, se voyant seul, leva sa tête toute bouleversée. Mais où suis-je donc ici? S'écria-t-il. Des princes, des altesses chez Monsieur Jacques, Monsieur le duc de Chartres, Monseigneur le prince de Conti, chez un copiste. Il s'approcha de la porte pour écouter. Le cœur lui battait singulièrement. Les premières salutations avaient déjà été échangées entre Monsieur Jacques et le prince. Le prince parlait. J'eusse voulu vous emmener avec moi, disait-il. Et pourquoi faire, mon prince? Demanda Jacques. Mais pour vous présenter à la dauphine, c'est une ère nouvelle pour la philosophie, mon cher philosophe. Mille grâces de votre bon vouloir, monseigneur, mais impossible de vous accompagner. Cependant, vous avez bien, il y a 6 ans, accompagné Madame de Pompadour à Fontainebleau. J'étais de 6 ans plus jeune. Aujourd'hui, je suis cloué à mon fauteuil par mes infirmités et par votre misanthropie. Et quand cela serait, monseigneur, ma foi, le monde n'est-il pas chose bien curieuse qu'il faille se déranger pour lui? Eh bien, voyons, je vous tiens quitte de Saint-Denis et du grand cérémoniel, et je vous emmène à la Muette, où couchera après-demain soir Son Altesse Royale. Son Altesse Royale arrive donc après-demain à Saint-Denis, avec toute sa suite. Voyons, 2 lieues sont bientôt faites, ne causent pas un grand dérangement. On dit la princesse excellente musicienne, c'est une églève de Gluck. Jacques n'en entendit point davantage. À ces mots, après-demain, Madame la Dauphine arrive avec toute sa suite à Saint-Denis, il avait pensé à une chose, c'est que le surlendemain, il allait se retrouver à 2 lieues d'André. Cette idée l'éblouit comme si ses yeux eussent rencontré un miroir ardent. Le plus fort des deux sentiments étouffa l'autre. L'amour suspendit la curiosité. Un instant, il sembla à Gilbert qu'il n'avait plus assez d'air dans sa poitrine, dans ce petit cabinet. Il courut à la fenêtre dans l'intention de l'ouvrir. La fenêtre était cadenassée en dedans, sans doute pour qu'on ne pût jamais voir de l'appartement situé en face ce qui se passait dans le cabinet de Monsieur Jacques. Il retomba sur sa chaise. Ah, je ne veux plus écouter aux portes, dit-il. Je ne veux plus pénétrer les secrets de ce petit bourgeois, mon protecteur, de ce copiste qu'un prince appelle son ami et veut présenter à la future reine de France, à la fille des empereurs, à laquelle Mademoiselle André parlait presque à genoux. Et cependant, peut-être apprendrai-je quelque chose de Mademoiselle André en écoutant. Ah non, non, je ressemblerai à un laquais. L'abri aussi écoutait aux portes. Et il s'écarta courageusement de la cloison dont il s'était rapproché. Ses mains tremblaient, un nuage obscurcissait ses yeux. Il éprouvait le besoin d'une distraction puissante. La copie l'eût trop peu occupé. Il saisit un livre sur le bureau de Monsieur Jacques. Les confessions, lut-il avec une surprise joyeuse, les confessions dont j'ai avec tant d'intérêt lu 100 de pages. Édition ornée du portrait de l'auteur, continua-t-il. Oh, et moi qui n'ai jamais vu de portrait de Monsieur Rousseau, s'écria-t-il. Oh, voyons, voyons. Et il retourna vivement la feuille de papier Joseph qui cachait cette gravure, aperçut le portrait et poussa un cri. Gilbert compara la figure de Jacques au portrait qu'il tenait à la main et les bras étendus, tremblant de tout son corps, laissa tomber le volume en murmurant « Je suis chez Jean-Jacques Rousseau. » Voyons comment vous avez copié votre musique, mon enfant, répondit en souriant Jean-Jacques, bien plus heureux au fond de cette ovation imprévue qu'il ne l'avait été des 1000 triomphes de sa glorieuse vie. Et, passant devant Gilbert frémissant, il s'approcha de la table et jeta les yeux sur le papier. La note n'est pas mauvaise, dit-il. Vous négligez les marges, ensuite vous ne joignez pas assez du même trait les notes qui vont ensemble. Ah, attendez, il vous manque un soupir à cette mesure. Puis, tenez, voyez, vos barres de mesure ne sont pas droites. Faites aussi les blanches de 2 demi-cercles, peu importe qu'elles joignent exactement. La note outrante est disgracieuse et la queue s'y soude mal. Oui, en effet, mon ami, vous êtes chez Jean-Jacques Rousseau. Oh, pardon, alors, monsieur, de toutes les sottises que j'ai dites, s'écria Gilbert, joignant les mains et prêt à se prosterner. A-t-il donc fallu, dit Rousseau, en haussant les épaules, a-t-il fallu qu'il vînt ici un prince pour que vous reconnaissiez le persécuté, le malheureux philosophe de Genève? Pauvre enfant! Heureux enfant qui ignore la persécution. Oui, je suis heureux, bien heureux, mais c'est de vous voir, c'est de vous connaître, c'est d'être près de vous. Merci, mon enfant, merci. Mais ce n'est pas là le tout d'être heureux. Il faut travailler. Maintenant que vos essais sont faits, prenez ce rondeau et tâchez de le copier sur du vrai papier à musique. C'est court et peu difficile. De la propreté surtout. Mais comment m'avez-vous reconnu? Gilbert, le cœur gonflé, ramassa le volume des confessions et montra le portrait à Jean-Jacques. Ah oui, je comprends. Mon portrait brûlé en effigie sur la première page de l'Émile. Mais peu importe la flamme éclair, qu'elle vienne du soleil ou d'un auto-da-fé. Monsieur, monsieur, savez-vous que jamais je n'avais rêvé que cela, vivre auprès de vous? Savez-vous que mon ambition ne va pas plus loin que ce désir? Vous ne vivrez pas auprès de moi, mon ami, dit Jean-Jacques, car je ne fais pas d'élèves. Quant à des hôtes, vous l'avez vu, je ne suis pas assez riche pour en recevoir et surtout pour en garder. Gilbert frissonna. Jean-Jacques lui prit la main. Au reste, dit-il, ne vous désespérez pas. Depuis que je vous ai rencontré, je vous étudie, mon enfant. Il y a en vous beaucoup de mauvais, mais aussi beaucoup de bons. Luttez avec votre volonté contre vos instincts. Défiez-vous de l'orgueil, ce ver rongeur de la philosophie, et copiez de la musique en attendant mieux. Oh mon Dieu, dit Gilbert, je suis tout étourdi de ce qui m'arrive. Il ne vous arrive cependant rien que de bien simple et de bien naturel, mon enfant. Il est vrai que ce sont les choses simples qui émeuvent le plus les cœurs profonds et les esprits intelligents. Vous fuyez, je ne sais d'où, je ne vous ai pas demandé votre secret, vous fuyez à travers les bois, dans ces bois vous rencontrez un homme qui herborise, cet homme a du pain, vous n'en avez pas, il partage avec vous son pain, vous ne savez où vous retirer, cet homme vous offre un asile, cet homme s'appelle Rousseau, voilà tout, et cet homme vous dit, le premier précepte de l'homme est celui-ci, homme, suffis-toi à toi-même. Or, mon ami, quand vous aurez copié votre rondeau, vous aurez gagné votre nourriture d'aujourd'hui. Copiez donc votre rondeau. Oh, monsieur, que vous êtes bon! Oh, quant au gîte, il est à vous par-dessus le marché. Seulement, pas de lecture nocturne, ou si vous usez de la chandelle, que ce soit la vôtre. Sinon, Thérèse gronderait. Avez-vous faim maintenant? Oh non, monsieur, dit Gilbert, suffoqué. Il reste du souper d'hier, de quoi déjeuner ce matin. Ne faites pas de façon. Ce repas est le dernier, sauf invitation, si nous restons bons amis, que vous ferez à ma table. Gilbert commença un geste que Rousseau interrompit d'un signe de tête. Il y a, continua-t-il, rue Plâtrière, une petite cuisine pour les ouvriers. Vous y mangerez à bon compte, car je vous y recommanderai. En attendant, allons déjeuner. Gilbert suivit Rousseau sans répondre. Pour la première fois de sa vie, il était dompté. Il est vrai que c'était par un homme supérieur aux autres hommes. Après les premières bouchées, il sortit de table et retourna travailler. Il disait vrai, son estomac, trop contracté de la secousse qu'il avait perçue, ne pouvait encore recevoir aucune nourriture. De tout le jour, il ne leva point les yeux dessous son ouvrage, et vers 8 heures du soir, après avoir déchiré 3 feuilles, il était parvenu à copier lisiblement et proprement un rondeau de 4 pages. Je ne veux pas vous flatter, dit Rousseau, c'est encore mauvais, mais c'est lisible. Cela vaut 10 sous. Les voici. Gilbert les prit en s'inclinant. Il y a du pain dans l'armoire, monsieur Gilbert, dit Thérèse, sur qui la discrétion, la douceur et l'application de Gilbert avaient produit un bon effet. Merci, madame, répondit Gilbert, croyez que je n'oublierai point vos bontés. Tenez, dit Thérèse, en lui tendant le pain. Gilbert allait refuser, mais il regarda Jean-Jacques et comprit, par ce sourcil qui se fronçait déjà au-dessus de cet œil subtil, et par cette bouche si fine qui commençait à se crisper, que son refus pourrait bien blesser son hôte. J'accepte, dit-il. Puis il se retira dans sa petite chambre, tenant en main la pièce de 6 sous d'argent et les 4 sous de cuivre qu'il venait de recevoir de Jean-Jacques. Enfin, dit-il, en entrant dans sa mansarde, je suis donc mon maître, c'est-à-dire non, pas encore, puisque j'ai là le pain de la charité. Et quoiqu'il eût faim, il déposa sur l'appui de sa lucarne son pain, auquel il ne toucha point. Puis, pensant qu'il oublierait sa faim en dormant, il souffla sa chandelle et s'étendit sur sa paillasse. Le lendemain, Gilbert avait fort peu dormi pendant toute cette nuit. Le lendemain, le jour le trouva éveillé. Il se rappela ce que lui avait dit Rousseau des jardins sur lesquels donnait la fenêtre. Il se pencha hors de la lucarne et vit en effet les arbres d'un beau jardin. Au-dessus de ces arbres s'élevait l'hôtel auquel appartenait ce jardin et dont l'entrée donnait rue de la Jussienne. Dans un coin du jardin, tout entouré de jeunes arbres et de fleurs, s'élevait un petit pavillon au contrevent fermé. Gilbert pensa d'abord que ces contrevents étaient fermés à cause de l'heure et que ceux qui habitaient ce pavillon n'étaient pas encore réveillés. Mais comme les arbres naissants avaient collé leur feuillage contre ces contrevents, Gilbert comprit bientôt que ce pavillon devait être inhabité depuis l'hiver, tout au moins. Il en vint alors à admirer les beaux tilleuls qui lui cachaient le logement principal. Deux ou trois fois, la faim avait entraîné Gilbert à jeter les yeux sur le morceau de pain que la veille lui avait coupé Thérèse, mais toujours maître de lui, et tout en le convoitant, il n'y avait pas touché. 5 heures sonnèrent, alors il pensa que la porte de l'allée devait être ouverte et lavée, brossée et peignée. Gilbert, grâce aux soins de Jean-Jacques, avait en remontant dans son grenier trouvé les objets nécessaires à sa modeste toilette, et lavé, brossé, peigné, disons-nous, il prit son pain et descendit. Rousseau, qui cette fois n'avait pas été le réveiller, Rousseau, qui par un excès de défiance peut-être, et pour mieux se rendre compte des habitudes de son hôte, n'avait point fermé sa porte la veille, Rousseau l'entendit descendre et le guetta. Il vit Gilbert sortir, son pain sous le bras. Un pauvre s'approcha de lui, il vit Gilbert lui donner son pain, puis entrer chez un boulanger qui venait d'ouvrir sa boutique et acheter un autre morceau de pain. Il va aller chez le traiteur, pensa Rousseau, et ses pauvres 10 sous y passeront. Rousseau se trompait. Tout en marchant, Gilbert mangea une partie de son pain, puis, s'arrêtant à la fontaine qui coulait au coin de la rue, il but, mangea le reste de son pain, but encore, se rinça la bouche, se lava les mains et revint. Ma foi, dit Rousseau, je crois que je suis plus heureux que Diogène et que j'ai trouvé un homme. Et l'entendant remonter l'escalier, il s'empressa d'aller lui ouvrir la porte. Le jour se passa tout entier dans un travail ininterrompu. Gilbert avait appliqué à ce monotone labeur de la copie son activité, sa pénétrante intelligence et son assiduité obstinée. Ce qu'il ne comprenait pas, il le devinait, et sa main, esclave d'une volonté de fer, traçait les caractères sans hésitation, sans erreur. De sorte que, vers le soir, il en était arrivé à 7 pages d'une copie, sinon élégante, du moins irréprochable. Rousseau regardait ce travail en juge et en philosophe à la fois. Comme juge, il critiqua la forme des notes, la finesse des déliés, les écartements des soupirs et des points, mais il convint qu'il y avait déjà un progrès notable sur la copie de la veille et il donna 25 sous à Gilbert. Comme philosophe, il admirait la force de la volonté humaine qui peut courber 12 heures de suite sous le travail un jeune homme de 18 ans, au corps souple et élastique, au tempérament passionné, car Rousseau avait facilement reconnu l'ardente passion qui brûlait le corps du jeune homme. Seulement, il ignorait encore si cette passion était l'ambition ou l'amour. Gilbert pesa dans sa main l'argent qu'il venait de recevoir. C'était une pièce de 24 sous et 1 sou. Il mit le sou dans une poche de sa veste, probablement avec les autres sous qui lui restaient de la veille, et serrant avec une satisfaction évidente la pièce de 24 sous dans sa main droite, il dit: Monsieur, vous êtes mon maître, puisque c'est chez vous que j'ai trouvé de l'ouvrage. Vous me donnez même le logement gratis. Je pense donc que vous pourriez mal juger de moi si j'agissais sans vous communiquer mes actions. Rousseau le regarda de son œil effarouché. Quoi, dit-il, que voulez-vous donc faire? Avez-vous pour demain une autre intention que de travailler? Monsieur, oui, pour demain, avec votre permission, je voudrais être libre. Pourquoi faire, dit Rousseau, pour fainéantiser? Monsieur, dit Gilbert, je voudrais aller à Saint-Denis. À Saint-Denis? Oui, Madame la Dauphine arrive demain à Saint-Denis. Ah, c'est vrai, demain, il y a des fêtes à Saint-Denis pour la réception de Madame la Dauphine. C'est cela, dit Gilbert. Je vous aurais cru moins badaud, mon jeune ami, dit Rousseau, et vous m'avez fait d'abord l'effet de bien autrement mépriser les pompes du pouvoir absolu. Monsieur, regardez-moi, moi que vous prétendez quelquefois prendre pour modèle. Hier, un prince royal est venu me solliciter d'aller à la cour, non pas comme vous irez, pauvre enfant, en vomissant sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule d'un garde française passer la voiture du roi à laquelle on portera les armes comme on fait pour le Saint-Sacrement, mais pour paraître devant les princes, pour voir sourire les princesses. Eh bien, moi, obscur citoyen, j'ai refusé l'invitation de ces grands. Gilbert approuva de la tête. Et pourquoi ai-je refusé cela? Continua Rousseau avec véhémence. Parce que l'homme ne peut être double, parce que la main qui a écrit que la royauté était un abus ne peut pas aller demander à un roi l'aumône d'une faveur, parce que moi qui sais que toute fête enlève au peuple un peu de ce bien-être dont il lui reste à peine pour ne pas se révolter, je proteste, par mon absence, contre toutes ces fêtes. Monsieur, dit Gilbert, je vous prie de croire que j'ai compris tout ce qu'il y a de sublime dans votre philosophie. Sans doute, cependant, puisque vous ne la pratiquez pas, permettez-moi de vous dire, monsieur, dit Gilbert, je ne suis pas philosophe. Dites au moins ce que vous allez faire à Saint-Denis. Monsieur, je suis discret. Le mot frappa Rousseau. Il comprit qu'il y avait quelque mystère caché sous cet entêtement. Et il regarda le jeune homme avec une espèce d'admiration que lui inspirait ce caractère. À la bonne heure, dit-il, vous avez un motif. J'aime mieux cela. Oui, monsieur, j'ai un motif qui ne ressemble en rien, je vous jure, à la curiosité que l'on a d'un spectacle. Hein, tant mieux, ou peut-être tant pis, car votre regard est profond, jeune homme, et j'y cherche en vain la candeur et le calme de la jeunesse. Je vous ai dit, monsieur, répliqua tristement Gilbert, que j'avais été malheureux et que, pour les malheureux, il n'y avait point de jeunesse. Alors c'est convenu, vous me donnez le jour de demain. Je vous le donne, mon ami. Merci, monsieur. Seulement, dit Rousseau, à l'heure où vous regarderez passer toutes les pompes du monde, je développerai un de mes herbiers et je passerai en revue toutes les magnificences de la nature. Monsieur, dit Gilbert, n'eussiez-vous point abandonné tous les herbiers de la terre le jour où vous allâtes pour revoir Mademoiselle Galley après lui avoir jeté un bouquet de cerises sur le sein? Voilà qui est bien, dit Rousseau, c'est vrai, vous êtes jeune. Allez à Saint-Denis, mon enfant. Puis, lorsque Gilbert, tout joyeux, fut sorti, refermant la porte derrière lui, ce n'est pas de l'ambition, dit-il, c'est de l'amour.